Celle.
Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous jusqu'à 11h de Paris, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous intéressent, vos coups de cœur, coups de gueule, vos analyses, vos témoignages concernant l'actualité. 33 9 693 693 70, la page Facebook de l'émission, les réseaux sociaux comme Twitter également. Et j'oubliais quoi ? Bah oui, l'adresse électronique appel@actu.rfi.fr. Et surtout, n'oubliez pas de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler, car le principe de cette émission, c'est de vous donner la parole, c'est de vous entendre sur l'antenne d'RFI. On a longuement parlé, juste avant le journal, du démantèlement d'un trafic présumé de bébés au Niger. Je vous rappelle que 17 personnes, dont 12 femmes, ont été écrouées. C'est un sujet qui suscite beaucoup de réactions au standard. Moussa, vous êtes à Niamey, au Niger. Bonjour Moussa.
Bonjour Monsieur Juan Gomez.
Alors, cette affaire a pris un tournant politique, puisque parmi les personnes écrouées, il y a l'épouse du ministre de l'Agriculture, mais aussi la deuxième épouse du président de l'Assemblée nationale. Et vous dites, Moussa, comme beaucoup d'ailleurs au standard, qu'il faut dépolitiser cette affaire.
Exactement, Juan. D'abord, je voudrais dire que je suis indigné, je suis choqué, car c'est la première fois qu'un tel scandale éclate chez nous au Niger. Du coup, je pense que c'est une affaire grave et sérieuse au point où il ne faut pas la politiser. Il faut carrément la dépolitiser et situer les responsabilités, traduire les auteurs et les complices devant la justice. Pour certains, il s'agit d'une manœuvre politique de la majorité pour écrouer l'opposant à Mahamadou. Je pense que loin de là, cette idée, n'est-ce pas, parce que aujourd'hui, la femme de Mahamadou n'est pas la seule impliquée dans ce trafic d'enfants. Il y a aussi les femmes de certaines autres personnalités proches du régime qui sont aussi impliquées au jour d'aujourd'hui dans les prisons du Niger.
Donc lorsque l'avocat de l'épouse du président de l'Assemblée nationale dénonce une machination politique pour atteindre justement Mahamadou, vous avez l'impression qu'il exagère et que lui essaie de noyer le poisson de cette façon.
Non, je pense que c'est l'opposition qui essaie en tout cas de politiser cette affaire. Je pense qu'elle est assez grave. Écoutez, Juan, on est en train de parler du trafic d'enfants. Si aujourd'hui, parce qu'on est opposant, on peut se permettre d'aller sur le marché acheter des enfants comme des moutons, ou si aujourd'hui, parce qu'on est opposant, on peut se permettre de trafiquer, de se lancer dans le trafic d'enfants sans être inquiété par la loi, mais ma foi, je pense que nous sommes dans quel monde aujourd'hui?
Ouais. Pour l'instant, tous ceux qui sont écroués, Moussa, excusez-moi, vous condamnez d'avance tous ceux qui sont écroués. Je rappelle que ces 17 personnes sont présumées innocentes à l'heure actuelle. Mais si vous êtes convaincu, Moussa, du bien fondé de cette affaire, comment se fait-il que la justice n'accepte pas la requête du couple Amadou, donc du couple du président de l'Assemblée nationale, à savoir effectuer des tests ADN pour prouver si oui ou non il y a une filiation scientifique, une preuve scientifique?
Non, monsieur Wan, je pense que moi je fais confiance entièrement à la justice nigérienne. Elle sait ce qu'elle fait. Je pense qu'il faut laisser la justice sur son cours. Il s'agit ici de démanteler un réseau de trafic d'enfants entre le Bénin, le Nigeria et le Niger. Se limiter à un simple test ADN pour désengager la responsabilité d'un opposant politique ne permettrait pas.
Un test ADN, il est sûr à 100%. Donc si vous avez, si j'ai un enfant, si une femme revendique avoir un enfant de Juan Gomez par exemple, on fait un test ADN et soit le test est concluant, soit il dément les propos de la femme en question. Donc vous voyez, il y a la preuve, elle est à 100% avec un test ADN. En tout cas, cette affaire fait beaucoup de bruit, elle défraie la chronique au Niger. On aura certainement l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines, au fur et à mesure de l'évolution du côté de la justice. Merci à vous d'avoir contribué à la réflexion, Moussa. Bonne journée à Niamey. On va parler maintenant de la mise en examen de Nicolas Sarkozy avec Élie qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Élie.
Bonjour Juan.
Nicolas Sarkozy, mis en examen pour des soupçons de recel, de violation du secret professionnel, corruption active et trafic d'influence. Vous avez écouté cette semaine l'ancien président qui est sorti de son silence hein, au lendemain de l'annonce de sa mise en examen. Il a accordé un entretien à nos confrères de TF1 et d'Europe 1. Et vous revenez sur ses propos lorsqu'il a parlé d'instrumentalisation politique d'une partie de la justice en France.
Tout à fait, Juan. J'ai un peu suivi cette affaire. Et il faut quand même reconnaître que la justice française a prêté le flanc à Nicolas Sarkozy. La juge Claire Thépeau, qui est l'une des juges qui instruit l'affaire, est une juge qui appartient au syndicat de la magistrature, qui, dans l'entre-deux-tours, a appelé à voter pour son adversaire, donc a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. Donc c'est une position politique que cette juge, par son syndicat, prend. Deuxièmement, après l'élection de François Hollande, il y a la juge qui fait une interview à Mediapart dans laquelle elle déclare qu'elle est très heureuse que ce soit Hollande qui ait été élu.
Excusez-moi, autant effectivement le syndicat de la magistrature qui est classé à gauche avait appelé à ne pas voter pour Nicolas Sarkozy au second tour de la présidentielle, autant sur ce point je suis d'accord, autant sur l'autre aspect de votre intervention quand vous dites qu'elle s'est félicitée de la victoire de François Hollande, ce n'est pas tout à fait exact. C'est vrai que dans un entretien qu'elle a accordé à Mediapart, cette magistrate a réagi à la défaite de Nicolas Sarkozy et elle a dit « Ce qui est certain, c'est que nous aspirons tous à retrouver du calme, de la sincérité et de la confiance. »
Tout à fait. Donc on a su à retrouver parce qu'on espère que on estime que celui qui était là, il ne le faisait pas et celui qui est venu, Dieu merci, il va nous apporter de la sérénité dans notre travail. Ça, c'est dans un premier temps. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que on a vu, comme ça déjà, on a vu quand même le ministre de la Justice, Christian Taubira, qui disait ne pas être au courant des écoutes. Donc il a menti publiquement à la France sur cette écoute de Nicolas Sarkozy. Qui fait qu'on a l'impression qu'au niveau de la gauche, ils sont au courant de quelque chose qui se passe et ils essaient de cacher quelque chose.
Donc vous avez le sentiment que Claire Thépeau, donc cette magistrate qui est chargée de mener l'enquête sur les affaires des écoutes, devrait être dessaisie du dossier.
Pour moi, oui, elle doit être dessaisie du dossier. Ça apporterait beaucoup plus de sérénité et ça jetterait moins de discrédit sur la justice française.
Alors,
la première fois que je commence à avoir beaucoup de doutes sur la justice française et sur sa neutralité.
Oui, en même temps, excusez-moi, Claire Thépeau n'est pas toute seule. Hein. Elle travaille en binôme avec une autre magistrate.
Voilà, ce sont que deux.
Et ah oui.
Claire Thépeau, elle est déjà affichée. Elle est déjà... Voilà.
Oui, mais là, pour le coup, les décisions se prennent à deux, vous voyez, donc elle n'est pas toute seule, Claire Thépeau n'est pas toute seule à prendre les décisions, elle a une consoeur qui travaille avec elle. Élie, ne raccrochez pas, je voudrais qu'on accueille François qui est à Libreville, bonjour François.
Bonjour Juan Gomez.
On vous écoute également sur cette affaire.
Bien évidemment, je suis d'accord avec mon prédécesseur. Je suis fortement indigné de la manière dont M. Nicolas Sarkozy a été traité en tant qu'ancien chef d'État. Et tout de suite, je conclue que ce n'est qu'une manipulation politique. Parce que, vous voyez bien, ce que mon confrère vient de dire, c'est que quand on fait un choix d'un juge qui doit rencontrer ou bien qui doit interroger un ancien chef d'État comme M. Nicolas Sarkozy, qui est l'une des figures emblématiques de la politique française, je crois que le choix n'a pas été fait parce qu'il fallait que la justice soit équitable, mais seulement fallait humilier Nicolas Sarkozy.
Vous doutez de l'indépendance de la justice française ?
Absolument, absolument, Juan. Ça a été démontré clairement.
Enfin, démontré.
Ça a été démontré clairement, M. Juan Gomez. Voyez-vous, M. Nicolas Sarkozy, quand il passe à TF1, il a fait une lecture brève des sommations qu'il a reçues à l'époque candidat à l'élection présidentielle.
Oui.
Voilà. Alors, vous comprenez avec moi que les gouvernants français...
Oui, mais c'est, excusez-moi, et je m'adresse aussi à Élie, ce n'est pas Claire Thépaut qui a rédigé la lettre adressée à Nicolas Sarkozy entre les deux tours de l'élection présidentielle. C'est vrai que Nicolas Sarkozy a cité un extrait de cette lettre dans son entretien accordé aux deux médias français. Et dans cette lettre, le syndicat lui reproche notamment d'avoir violé la séparation des pouvoirs et d'avoir dégradé la loi. Mais le syndicat parle en son nom, et ce n'est pas Claire Thépaut qui était devant l'ordinateur et qui a écrit cette lettre.
D'accord, mais elle appartient à ce syndicat, n'est-ce pas, Juan? Elle appartient à ce syndicat, et en plus, moi je dis surtout sur la forme, pas le fond. Moi, dans le fond, je ne veux pas qu'on aventurier, mais sur la forme, en tant qu'un ancien chef d'État de la France, comme M. Nicolas Sarkozy, je crois que ce traitement ne devait pas être celui qu'on devait le réserver.
C'est-à-dire, quel traitement?
Justement, voyez-vous, Juan, comme il a dit lui-même à l'antenne, on pouvait appeler M. Sarkozy, comme on reçoit tout citoyen français qui a des contingents avec la justice, et qu'on devait l'écouter, on devait l'interroger. Et puis simplement.
D'accord. Donc plutôt, il aurait fallu plus le convoquer pour qu'il réponde aux questions des juges plutôt que de le mettre en garde à vue.
Justement, il a été escorté par des policiers dans un véhicule, des policiers, et gardé 15 heures de temps, et puis garde à vue. Et puis les médias français ont plus ou moins fait leur travail et ils ont médiatisé. Ils sont tombés dessus. Et je crois
C'est normal, les médias français ont fait leur travail. Un ancien président qui est mis en garde à vue, forcément, c'est une première dans l'histoire de la Ve République. Donc on a fait notre travail. Là aussi, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. On va suivre de près, évidemment, l'évolution de ce dossier. Il y a d'autres sujets qui intéressent les auditeurs. En tout cas, je vous remercie, François et Élie, François Libreville, Élie à Abidjan, 10h51 à Paris, 33 9 693 693 70. Bonjour Lamarane.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à toutes et à tous.
Alors vous êtes à New York, vous nous avez envoyé un courrier électronique puisque vous souhaitez réagir à la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Avec cette décision adoptée, elle est passée un peu inaperçue, il faut le dire, décision adoptée la semaine dernière par les chefs d'État de l'Union africaine. Cette nouvelle Cour, future Cour, ne pourra pas poursuivre les chefs d'État et de gouvernement en exercice, contrairement à la Cour pénale internationale, qui peut poursuivre les chefs d'État. Vous êtes scandalisé par cette décision?
Ben moi, Juan Gomez, je suis écœuré, voire dessus de cette décision qui stipule que les chefs d'État en exercice sont couverts d'une immunité totale en cas de crime. Et j'espère bien que tout le monde est au courant de ce qui se passe sur le continent africain. La plupart des chefs d'État sont accusés de crimes contre l'humanité et encore ils poursuivent ces crimes sur le continent. En aucun cas, une cour indépendante de justice ne pourra écouter ces présidents sur les crimes qu'on les accuse.
Ouais, ils vont bénéficier de l'immunité durant la durée de leur mandat. J'ai envie de dire, mais comme en Occident, comme en Europe. Mais ce que reprochent les associations, les organisations de défense des droits de l'homme, c'est qu'on voit bien qu'il y a une volonté de contrer la Cour pénale internationale qui, elle, n'hésite pas, et on l'a vu notamment avec le président et le vice-président kényan, à poursuivre des dirigeants en exercice.
Effectivement. Et les cas sont éloquents. Nous pouvons voir le cas de Hissène Habré où le Sénégal et ses partenaires africains ont eu beaucoup de difficultés à organiser son procès. Nous avons aussi le cas du président Kenya et de son vice-président qui sont accusés de crimes contre l'humanité, dont leur père du continent sont là encore en train de les défendre pour ne pas aller donner leur version des faits
à la Cour pénale internationale. L'idée aussi des chefs d'État africains, c'est de dire pourquoi l'Afrique ne pourrait-elle pas elle-même juger ses dirigeants et ses anciens responsables. Donc c'est aux Africains de juger les Africains. C'est en substance ce que disent les chefs d'État depuis plusieurs années.
Oui, c'est tout à fait normal, mais je pense que même au niveau des justices nationales, les pays africains sont incapables d'organiser des procès contre l'humanité. Nous pouvons voir le cas de la Guinée où l'ancien chef de la junte qui est accusé de crimes contre l'humanité sur les massacres du 28 septembre, qui jouit de toute une impunité avec ses complices qui sont qui ont eu des promotions au niveau du gouvernement d'Alpha Condé. Est-ce que vous voyez?
Donc vous ne faites pas confiance, vous, à la justice sur le continent africain. En tout cas, Lamar Amann, merci d'écouter RFI en pleine nuit à New York et merci d'avoir lancé d'une certaine façon le débat de lundi, puisque ce sera notre débat de lundi. Donc si comme Lamar Amann, vous êtes choqué par cette décision prise la semaine dernière par les chefs d'État, ou au contraire vous trouvez qu'elle est légitime et justifiée, appelez-nous, vous pouvez vous inscrire dès maintenant et on en parlera ensemble lundi à partir de 8h10, temps universel. Cette semaine, les évêques de la République démocratique du Congo ont dit non à toute révision de la Constitution. Bonjour Pongo.
Bonjour Juan Romey.
Non à la révision de la Constitution et non à une prolongation du mandat du président Joseph Kabila. L'Église catholique qui, d'une certaine façon, s'ingère dans le débat politique. Mais vous avez salué la décision des évêques.
Oui, je salue la déclaration de la Commission épiscopale nationale du Congo parce qu'elle rappelle aux gouvernants qui respectaient et fait respecter la Constitution n'est pas un risque mais un devoir impératif reconnu à tous et aussi lorsqu'elle demande aux parlementaires de ne pas voter pour une quelconque proposition ou projet de loi consistant à faire une éventuelle révision constitutionnelle, elle fait au moins appel aux parlementaires au recours à la conscience et au respect des valeurs constitutionnelles afin d'éviter l'avènement d'un chaos constitutionnel et de compromettre les acquis de la démocratie.
Oui, mais Pongo, on peut comprendre la réflexion des évêques, mais en même temps, aujourd'hui, à l'heure actuelle, officiellement, le gouvernement n'a pas dit qu'il voulait réviser l'article 220 de la Constitution, cet article qui définit le nombre de mandats présidentiels. Donc, est-ce que les évêques, est-ce que l'Église catholique congolaise ne va pas un peu trop vite en besogne?
L'Église a fait un son de cloche. Elle a essayé de lever la conscience du père. Parce qu'en fait, nous savons très bien que tout le monde doit faire respecter la Constitution. C'est comme ça qu'elle a voulu faire respecter
bien sûr,
la position de la Constitution.
Mais
bien, veut qu'on ne puisse pas...
Mais pourquoi alimenter le débat si le gouvernement n'a pas dit « nous avons l'intention de modifier la Constitution » ?
Bon, écoutez, si le gouvernement n'a pas encore dit expressément, oui, mais de part et d'autre, dans les chaînes de télévision, il y a des membres du parti au pouvoir qui crient, qui passent par ce là, c'est comme ça. L'Église, il y a un vigilant sur l'avenir du pays, n'a pas voulu que les acquis de la démocratie soient compromis.
Donc les évêques ont raison d'être vigilants, en tout cas ce matin sur l'antenne de RFI, Lambert Mende, qui est le porte-parole du gouvernement, s'est dit surpris quand même par l'attitude des évêques. Il disait qu'il n'avait pas connaissance d'une initiative visant à réviser ce fameux article 220 de la Constitution. Nous n'acceptons pas, il dit, d'être l'objet de calomnies. Fin de citation. On va revenir sur Nicolas Sarkozy avec un point de vue un peu différent de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. C'est vrai que la majorité des appels que nous avons reçus au standard comprennent les critiques de Nicolas Sarkozy formulées à l'encontre d'une partie de la justice française. Bonjour Claude.
Bonjour.
Vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Voilà, je suis à Kinshasa, en République démocratique du Congo.
Oui, allez-y, vous écoute.
Par rapport à la position de Nicolas Sarkozy qui a été président de la République pendant 5 ans. Et qui a eu, avec Madame Dati, à réformer cette justice française. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que, à chaque fois qu'elle est citée à comparaître devant la justice de son pays, sa stratégie consiste à vilipender cette justice, à remettre en cause l'objectivité des juges. Et d'ailleurs, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy a proféré des menaces au juge Gentil, ce qui est grave pour un ancien président de la République. Et aujourd'hui, la posture de Nicolas Sarkozy donne l'impression que la justice française est une justice à géométrie variable, une une justice à double vitesse.
Ouais, et donc vous condamnez cette position de Nicolas Sarkozy. Il aurait fallu aller un tout petit peu plus vite, Claude. Malheureusement, on est obligé de vous interrompre. On rend l'antenne, c'est comme ça. En tout cas, plus d'un Français sur deux, 52% des Français n'a pas été convaincu par les explications de l'ancien président de la République. Et s'agissant de l'indépendance de la justice, là aussi, une majorité des Français n'a pas été convaincu. Merci à tous, bon week-end et à lundi,
Appel
j'espère.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie. Transfert d'argent.